leur physique. Qu'est-ce qu'on a retrouvé en 85? C'est juste l'inverse. C'est-à-dire la préparation d'un troisième, non pas choc, mais contre-choc pétrolier, qui a fait dégringoler les prix d'une manière assez importante. Puisque nous avons des amis qui sortent de Grenoble, je me rappelle, à Grenoble en 85, effectivement, j'ai commis, je ne sais pas la bêtise ou l'audace, peut-être les deux, c'est que j'ai commencé à m'interroger. Mais enfin, comment se fait-il que tout ce monde-là, nous y inclus, bon, on marche comme ça, quand on se trempe tous, et quand on parle d'une chose, tous se parlent de la même chose en même temps. Eh bien, j'ai mis les pieds dans le plat, et en 85, à Grenoble, j'ai dit, ben oui, le prix du pétrole était à 25 dollars sur le marché. Et je dis, eh bien, si la guerre continue, la guerre des prix continue entre les pays de l'OPEP, je vois bien le pétrole à 5 dollars, le baril. Ben, j'ai donné mes arguments, pourquoi ? Parce que la mer du Nord, enfin, pour dire les choses très bêtement et très rapidement, la moyenne du coût en mer du Nord était de 5 dollars. Et la mer du Nord en avait besoin pour faire la soudure entre l'offre et la demande. Mais au-delà de ça, les pays de l'OPEP, la majorité, étaient de 1 dollar le coût par baril et même moins. Donc il y a toujours une rente à aller chercher. Alors donc je dis, si la guerre au couteau continue, eh bien effectivement, le prix peut aller jusqu'à 5 dollars. Le Monde à l'époque, enfin la représentante était là, le lendemain, à première page, le prix du pétrole à 5 dollars, point d'interrogation. Voilà, quelqu'un de l'université Laval, du Québec, bien de loin, vient nous dire que le prix du pétrole peut arriver jusqu'à 5 dollars. Et je devais quitter pour revenir ici. Je n'ai pas arrêté de recevoir des téléphones de partout dans le monde, parce que c'était quand même quelque chose, 5 dollars. Eh bien, les prix de pétrole sont arrivés à 7 dollars sur le marché. Pas pour longtemps. Parce que tout de suite après, le président Reagan, tout libéral qu'il est, a envoyé son vice-président, M. Bush, à l'époque, voir le roi d'Arabie Saoudite, et ça c'est maintenant du domaine public, pour lui dire « il faut arrêter le massacre ». Et il est évident, il faut arrêter le massacre, parce que si le prix du pétrole continue à cette allure, il n'y a aucun projet énergétique qui aurait pu émerger. Et la sécurité, pas la sécurité des approvisionnements, dans le sens, l'indépendance énergétique deviendrait un rêve irréalisable. Alors par conséquent, immédiatement après, eh bien, le fameux ministre a été démissionné pour donner une autre allure et les prix ont commencé à remonter. C'est pour vous dire que tout ça, les signaux du marché, par exemple, dans l'OPEP, on n'a pas su interpréter que quand on hausse les prix, le consommateur réagit. Peut-être il ne réagit pas à court ou à moyen terme, mais il finit toujours par réagir. Eh bien, l'OPEP a internalisé toutes ses études en disant, bien, il n'y a aucun problème, on peut continuer comme ça pendant des années. Et puis, le marché a fait son revirement d'un marché vendeur à un marché acheteur. Et cela, à partir de 81, 81, juste après le deuxième choc. Et c'est à cette époque, moi, je considère que l'OPEC tente à devenir un cartel. Tente à devenir un cartel. Avec toutes les, tous les problèmes qu'il y a. Numéro 2, deuxième facteur, qui nous indique pourquoi on y revient aujourd'hui à vouloir libéraliser tout ça. Eh bien, ça a passé presque inaperçu. On était tellement obsédés par la hausse des prix après 1973. On parlait du quadruplement, on parlait de la hausse des prix inconcevable, etc. Eh bien, ça a passé presque inaperçu que la base du changement était les nationalisations du secteur pétrolier. Parce que ces nationalisations, en réalité, ils ont coupé la chaîne pétrolière qui est, comme vous le savez, exploration, production, transport, raffinage et distribution, c'est-à-dire l'amont et l'aval, les nationalisations des pays de l'OPEP ont coupé la chaîne pétrolière de telle sorte que le secteur pétrolier est devenu bicéphale. Je l'ai dit il y a très longtemps, bicéphale. D'une part, l'amont était contrôlé par les pays de l'OPEP et l'aval toujours contrôlé par les grandes compagnies. Il est bien entendu que cela ouvre, et ça, la littérature économique, elle est tout à fait claire là-dessus, dans le secteur pétrolier, parce qu'il y a beaucoup d'aléas, beaucoup de risques, il y a comme un habit naturel qu'on doit rechercher à chaque fois, c'est-à-dire de se concentrer et de faire une intégration verticale. C'est ça ce qu'ils ont fait, les grandes compagnies, pendant 40 ans, et ils ont, comme ça, contrecarré la volatilité des marchés. Entre 1920 pratiquement et jusqu'à l'après-guerre, jusqu'à 1973, les prix du pétrole étaient effectivement contrôlés et pas volatiles. Après, quand il y a eu la coupure, effectivement, il y a... Alors, il y a un appel d'air. Quelques pays de l'OPEP ont essayé effectivement d'aller en aval. L'Arabie Saoudite, le Venezuela, la Libye, très peu. Le Koweït, avant le désastre. Mais ce n'était pas assez significatif. Mais aujourd'hui, il y a un retour pour pouvoir essayer de refaire une intégration verticale. Et à mon avis, on voit le même problème, et ne vous fiez pas aux apparences, quand on fait de la libéralisation des marchés, même des marchés d'électricité, bien sûr, pour faire passer la pilule, on va scinder la chaîne électrique, mais celui qui possède toute la chaîne électrique va essayer, d'une manière ou d'une autre, de ressouder et de faire une intégration verticale, parce que c'est ça son job depuis le matin, s'il est un président tout à fait conscient des risques qu'il prend quand tout se déglingue comme ça. Et même d'ailleurs, le marché le pousse vers cela. Numéro 3, je termine. Les deux chocs pétroliers ont stimulé, on le verra, Jean-Marie Martin nous le dira, un progrès technologique considérable qui a ouvert la voie à une plus grande substitution, d'où l'unification des marchés, sauf dans le secteur du transport. Et encore, on peut se demander jusqu'à quand. Et alors, cette substitution a été rendue possible par le progrès technologique fait dans le Nord, ce qui fait qu'on peut maintenant, comme on dit communément, switcher du gaz naturel au pétrole, à l'électricité, ce qui permet aussi une connexion avec les marchés boursiers. Eh bien, pas seulement cette grande substitution énergétique qui unifie le marché, mais aussi un abaissement des coûts de production. De telle sorte que la théorie ancienne, même ma thèse ancienne, qui était que, moi j'avais un prix plancher qui est au niveau mondial, qui est le coût d'un baril de pétrole aux États-Unis et au Canada. C'est le baril marginal. Bon, on ne peut pas aller en bas de ça, puisque les États-Unis, alors, deviendraient effectivement envahis par le pétrole étranger, et comme ça, la sécurité des approvisionnements des États-Unis serait mise en danger. Mais tandis que maintenant, il y a l'abaissement des coûts, le coût d'un baril moyen est beaucoup moins un peu partout que ce qui a été il y a 15 ans. Et deuxièmement, ça c'est un problème politique pour vous dire que le pétrole est toujours un produit stratégique, j'ai le sentiment que les États-Unis considèrent que finalement les puits de pétrole en Arabie Saoudite, c'est, je veux dire peut-être une énormité, mais c'est plus ou moins des puits américains. Donc, le problème de la sécurité des approvisionnements, s'il se pose, il doit être réglé politiquement et éventuellement militairement. Et cela, ce n'est pas une nouveauté. Le président Reagan l'a déclaré. Il dit, ne me cassez pas la tête avec vos problèmes de sécurité d'approvisionnement. Je cite de mémoire. Quand il y a menace à la sécurité d'approvisionnement, la réponse est politique et militaire. Elle n'est pas économique. Alors, on laisse l'économie marcher, mais quand il y a des choses comme ça, on y répond. Voilà. Ça c'est même pas une thèse, c'est une parenthèse que je livre à votre réflexion. Le quatrième et dernier point qui a émergé comme facteur vraiment explicatif et très important, et qui fait l'antidote de l'histoire du surplus et des pétrodollars, est le suivant. Je ne cesse de le répéter depuis des années, la disponibilité en capital est une condition nécessaire, mais non suffisante, pour le développement économique. cette réalité. Donc, je répète, la disponibilité en capital est une condition nécessaire, mais non suffisante, en développement économique. Cela a été expérimenté par tous les pays de l'OPEP. C'est-à-dire, nous, économistes, on a vécu pendant des décennies sur la thèse keynésienne, tous les modèles keynésiens, qui voulaient que si on disposait du capital à un bien, on achèterait le développement. Je simplifie. Donc, le facteur essentiel dans le développement, c'est le capital. Eh bien, aujourd'hui, on parle que le facteur essentiel, c'est l'éducation, ce qui est du simple bon sens. Mais on a mis du temps pour découvrir que c'est de l'éducation, on appelle ça la croissance endogène, mais que la disponibilité en capital n'est pas un facteur, même s'il est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Or, les pays de l'OPEP, ils ont voulu, avec les capitaux, faire presque tout. Ou ils ont cru qu'ils peuvent faire tout. D'où les situations qu'ils vivent actuellement, plus ou moins dramatiques selon les pays, mais dramatiques quand même pour tous, parce que, pour moi, la rente pétrolière était une occasion. Je crains beaucoup que cette occasion a été ratée. Je compare la rente pétrolière au chemin de fer du Canada. Ça, c'était un tournant historique qui a permis de lancer l'ensemble du Canada, un pays immense, dans le développement. La rente pétrolière aurait dû effectivement lancer les pays de l'OPEP dans le développement. Certes, ils se sentent développés, mais certes moins que ce qu'on attendait et ce que leurs dirigeants attendaient. Voilà quelques idées que j'ai voulu remuer devant vous, quitte à parfois être un peu provocateur, mais pour ne pas ronronner pendant tout le colloque et pour qu'il y ait des gens, par exemple, parmi vous, qui me disent « non, tu as tort ». Mais je suis tout à fait content qu'ils me le disent, parce que d'autant plus que viennent de vous dire, il y a une leçon de modestie et d'humilité. Les 25 dernières années, s'ils m'ont appris quelque chose, c'est effectivement qu'il est très difficile de projeter dans l'avenir des situations d'aujourd'hui. Je vous remercie.
Merci beaucoup, M. Ayoub, pour vos propos très intéressants, très stimulants. Vous nous avez donné une vision d'ensemble des 25 dernières années dans le domaine du pétrole. Et je dirais que ce sont les propos d'un sage. Et on vous en remercie beaucoup. Et on compte encore sur vous pendant bien des années pour nous stimuler avec vos idées et avec votre capacité d'analyse qui est, somme toute, très originale. Merci. Nous avons maintenant une pause d'une quinzaine de minutes, donc nous reprenons vers 10h moins 10. Merci.